l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Alexandre Doulut, historien spécialiste de la Shoah en France. Vous êtes ici dans le cadre d'une captation d'images, de témoignages de rescapés de la Shoah, d'enfants cachés à Strasbourg. Donc déjà, Alexandre Doulut, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes à Strasbourg sur deux jours pour prendre les témoignages des dernier rescapé de la Shoah, j'imagine. C'est un tour que vous faites, un tour de France pour ces captations?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que le mémorial de la Shoah, depuis quelques années, a décidé de développer, tant qu'il était temps, cette captation de témoignages partout où il est possible de les recueillir en France. Alors à Paris, nous avons un studio à demeure où les personnes viennent en fait, et on a une autre équipe, donc la nôtre, Alexandre Doulut donc, et Jimmy Leopold, on se déplace dans les villes, partout, où vivent encore des rescapés, alors, entre guillemets, on pourra y revenir, de la Shoah. Donc, à Strasbourg, on est venu une fois déjà, là, on est ici pour quelques jours, on est allé souvent à Marseille, Nice, etc., un peu partout.
Des rescapés, des enfants cachés, également des enfants de rescapés qui ont, par témoignage, on va dire, interposé, peuvent encore apporter des choses.
Alors, on a une règle à peu près intangible, il faut que les personnes aient quand même quelques souvenirs de la guerre. Donc, c'est difficile de demander des souvenirs à des personnes qui seraient nées après 1939, pour, si je dois donner à peu près une date butoir. Donc, c'est nécessairement des personnes qui étaient enfants pendant la guerre. Alors, quelquefois, aujourd'hui, il y a encore des centenaires qui sont en capacité de témoigner. Donc, on a quelquefois des jeunes adultes qui témoignent aujourd'hui pour nous et qui, là, ont des souvenirs d'adultes de la guerre. Mais oui, effectivement, le plus souvent, c'est des enfants. Aujourd'hui, c'est des nonagénaires, centenaires quelquefois. Mais...
Et cette mémoire-là, de cette période-là, précisément, qu'elles aient vécu la déportation ou au moins les affres de la guerre, c'est une mémoire qui est précise, qui les a marquées?
Alors, comme vous l'imaginez, c'est très aléatoire. Ça dépend beaucoup de la psychologie des personnes. C'est vraiment très divers. Quelquefois, on tombe sur des personnes qui ont des souvenirs extrêmement précis, pas seulement qui ne font pas forcément l'écho de choses traumatisantes, donc des personnes qui ont une mémoire phénoménale. Et inversement, quelquefois, oui, on arrive un peu tard, donc les souvenirs, on leur demande quand même de raconter des choses qui ont eu lieu il y a 80 ans. C'est quand même assez culotté. Alors, quelquefois, oui, les souvenirs sont plus diffus, mais bon, c'est la règle du jeu. On peut pas, on arrive un peu tard. En fait, cette volonté de collecter aujourd'hui, on le fait parce que c'est maintenant. C'est sûr qu'il y a 20 ans, les souvenirs étaient forcément plus précis. Mais bon.
Les personnes témoignent volontiers de cette période-là où il y a aussi des refus catégoriques?
On a peu de refus. Peu de refus, et quand on démarche les personnes, on essaie de pas trop insister, parce que là on s'appuie sur ce qu'avait dit Simone Veil à propos du devoir de mémoire. Elle disait, attention, il y a peut-être un devoir de mémoire, mais il y a aussi un droit à l'oubli. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas témoigner parce que c'est trop dur. Et nous, on n'a aucune légitimité pour leur forcer la main. Donc on a peu de refus. Et je pense quand même que les personnes, certaines, ça les soulage beaucoup. Parce que dans l'ensemble, il y en a quand même pas mal qui nous disent « j'ai pas raconté », alors pour tout un tas de raisons. Et on sent bien que ouais, ça leur fait du bien de parler. Et je pense que c'est plus facile de parler à un inconnu comme moi qu'à ses proches.
Clairement.
Voilà. Donc certains ouvrent leur cœur et oui, je pense que pour certains, c'est un soulagement. Et en plus, là, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, on leur laisse une copie du film qu'ils peuvent ensuite faire circuler autour d'eux. Donc ça délivre vraiment la parole à toute la famille, quoi. C'est assez important.
Elles ont conscience que ce témoignage va à la postérité, qu'il va être archivé au mémorial de la Shoah et qu'il sera certainement visible par les générations futures. Elles ont conscience de ça?
Alors oui, parce qu'on leur explique bien pour qu'il n'y ait pas de frustration, c'est-à-dire qu'on leur dit bien qu'on collecte leur histoire, non pas pour nous. Moi, je suis historien, donc je pourrais les utiliser, mais je leur dis toujours, attention, s'il faut votre témoignage, il sera écouté dans 30 ans, pas avant. C'est le hasard qui fera qu'un historien ou une historienne s'intéresse à leur film. Donc, ça peut être une petite frustration. Mais oui, ils comprennent la règle du jeu.
Hein, ouais. Ouais, elle participe à la grande histoire, pour le coup.
Ouais, c'est un pari sur l'avenir, quoi. On collecte pour les historiens du futur, en fait.
À Strasbourg, ici, il y a encore des personnes qui n'ont pas été entendues. Alors, vous collaborez avec l'association Passerelle du FSJU, qui, elle, rassemble, propose des animations, des rencontres pour ces rescapés de la Shoah ou les descendants. Il y a encore des personnes que vous n'avez pas entendues.
Eh oui, vous faites bien d'en parler, effectivement. C'est grâce à Passerelle qu'on a pu développer depuis plus d'un an une vraie collecte. C'est-à-dire que la vraie difficulté pour une institution comme le Mémorial, c'est de retrouver des personnes, de retrouver leurs contacts finalement, et de retrouver leur date de naissance. Et Passerelle, c'est vraiment le dispositif le plus à même de nous aider, de savoir qui est né avant la guerre, qui est encore en vie, qui a des souvenirs. Nous, sans ça, on est complètement démunis. Là, on en était arrivé à un point il y a 2 ans où on avait vraiment fait le tour de tous nos contacts.
Oui.
Et sans Passerelle, ça se serait sans doute arrêté. Donc, grâce à Passerelle, effectivement, on a encore des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à parler. Et je pense même qu'on pourra revenir une nouvelle fois parce que Karen Bloch nous trouvera d'autres personnes, je pense, dans la région au-delà de Strasbourg.
Alexandre Doulut, donc je le disais, vous êtes historien spécialiste de la Shoah en France. Comment choisit-on cette spécialité ? Pourquoi, peut-être ?
C'est une question trop longue, je suis désolé. Au départ, si vous voulez, moi, je voulais m'intéresser, quand j'ai repris mes études il y a une vingtaine d'années, je voulais m'intéresser plutôt à la collaboration économique, et tout un tas de facteurs archivistiques ont fait que j'ai bifurqué vers les spoliations des biens juifs, qui étaient un peu liées, parce que les archives étaient ouvertes. Et je suis originaire du Lot-et-Garonne, et il se trouve que j'ai découvert que chez moi, il y avait eu 473 déportés juifs, ce qui est énorme, ce que personne ne savait. Donc j'ai mis le doigt dans quelque chose d'énorme finalement pour moi et j'en suis jamais sorti, j'en sortirai pas. Quoi. Voilà.
C'est une quête sans fin, vous n'avez pas encore trouvé tous les éléments ou est-ce que c'est le besoin de témoigner au plus grand nombre ? Vous êtes entre les deux missions ?
Alors quand on est chercheur, il y a quelque chose d'un peu, pas obsessionnel, mais vous l'avez très bien compris, effectivement, les archives sont tellement énormes, le sujet est tellement dramatique et nous dépasse tellement que c'est sans fin, effectivement. Donc moi qui ambitionne de faire l'histoire de la déportation des Juifs dans toute la France, j'en ai pour plusieurs vies, donc je ne suis pas inquiet pour ma retraite et donc je sais comment m'occuper encore longtemps. Mais oui, c'est une sorte de quête sans fin parce que moi, ma particularité, c'est que j'ai travaillé dès le début avec Serge Klarsfeld, donc il m'a donné une version... Oui. Excel de son mémorial des déportés juifs de France. Et donc moi, ma principale tâche, c'est de renseigner, de collecter tous les renseignements que je peux sur chacun des 76 000 déportés. Donc oui, donc c'est une tâche sans fin, quoi.
Et vous vous sentez pas là justement, on va dire devant un mur infranchissable en disant justement, il va falloir plusieurs vies pour pouvoir avancer sur ces travaux ?
Paradoxalement, le fait de savoir que c'est sans fin vous libère finalement, puisque vous savez que vous n'arriverez pas au bout, donc vous collectez, c'est un peu comme on fait avec les témoignages, vous collectez aujourd'hui sans trop vous poser de questions, et vous savez que tôt ou tard, ça aura une utilité pour la connaissance en général. Donc non, je suis pas en train de devenir encore complètement fou.
De quelle façon vous recevez, vous, en tant que, au-delà de l'historien, de l'être humain, vous recevez tous ces témoignages, vous les prenez de façon synthétique, historique, ou est-ce que évidemment il y a de l'affect qui se met en place ?
Alors, il y en a forcément, mais on ne le recherche pas, c'est là peut-être la différence, c'est comme quand on fait visiter Auschwitz, ce qui est mon cas, à des adolescents, on ne recherche pas l'émotion, elle vient avec les connaissances historiques. Mais par contre, c'est vrai qu'on est face quelquefois à des personnes qui sont très pudiques, qui se protègent, donc qui racontent des événements sans donner leur affect, effectivement, au moment des faits. Donc là, par contre, moi, c'est vrai que c'est une de mes, pas de mes obsessions, mais de mes missions, d'essayer de leur dire, mais comment vous avez vécu tel événement ? Par exemple, quand toutes les personnes qui ont fui pendant l'Exode ou l'évacuation de Strasbourg en 1939, c'est quand même pas rien. Tous ces événements un peu importants, des fois, on est obligé de leur demander, mais racontez-nous comment vous, l'enfant, vous avez vécu cette chose. Ou comment vous avez vécu le moment où votre mère vous a dit « T'iras vivre chez des paysans, je ne sais où, parce que tu es en danger. » Donc oui, quelquefois, il faut un peu gratter, mais il y a des personnes qui refusent, qui n'aiment pas parler de leur affect, effectivement.
Vous avez une méthode que vous avez mise en place. Alors j'entends, vous devez certainement poser des questions très ouvertes pour leur dire de raconter, parce que le vécu en plus de ces rescapés est forcément différent d'une personne à l'autre. Mais vous avez, vous, une méthode pour les amener à avancer tout doucement dans leurs souvenirs?
Alors on n'a pas véritablement de grille de lecture. Par contre, on a quelques questions incontournables pour les chercheurs. Par exemple... Est-ce que vos parents se sont fait recenser comme juifs en 40 ou en 41? Ça, c'est des informations incontournables. Est-ce que vous aviez eu des faux papiers? Mais on n'a pas véritablement... Moi, je déteste... C'est pas des cobayes, ces gens-là, pour nous. Donc, le récit est assez libre. On leur demande de raconter, au départ, qui étaient leurs parents, qui étaient leurs grands-parents, s'ils les ont connus. Donc, on les fait avancer comme ça, chronologiquement, jusqu'à leur enfance, la guerre, l'après-guerre, qui ils sont devenus après. Mais... Moi, je pense qu'on peut pas... Moi, j'ai 53 ans, je suis face à des personnes qui ont 90 ans. Je me sens pas de les utiliser comme des robots ou comme des cobayes. Donc, je les laisse parler et je reviens, quand ils ont fini tel ou tel événement, de le raconter sur un aspect qui, moi, m'intéresse. Mais non, ça reste quelque chose de très humain et de... Alors peut-être quelquefois d'inégal parce que effectivement il n'y a pas de grille de lecture, donc c'est peut-être pas aussi carré que certains le voudraient, mais la dimension humaine, elle est, pour moi, elle est cruciale, quoi. Et je pense que pour le mémorial aussi, il n'est pas question d'utiliser ces personnes comme des statistiques ou comme des cobayes, quoi.
Alexandre Doulut, merci infiniment d'avoir merci répondu à mes questions. Donc, je rappelle, vous êtes historien, vous êtes ici à Strasbourg pour collecter les témoignages des derniers rescapés de la Shoah, et vous êtes spécialiste ici en France de la déportation. Merci à vous.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction. Valérie Vial.